du lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin?
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour et merci de nous choisir sur la 93.5. L'Afrique et le reste du monde, de la dépendance à la souveraineté, c'est le titre d'un nouvel ouvrage de professeur Kako Nubukpo qui vient de décrocher le prix du livre économique francophone 2024. Avec ce prix, l'économiste togolais fait encore parler de lui à travers la pertinence de ses réflexions. Le sujet est évoqué aujourd'hui par le journal L'Union pour la Patrie. Nous allons en parler et aborder également d'autres sujets liés à la actualité dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 26 novembre 2024. La mise en onde est assurée par Thomas Etekossi d'ATV. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci de nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Niamtougou et puis Radio Kouktoisie à Dapan. Comme la presse est suivie également dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Et vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mardi. Isido Akolo est là. Isido, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrère que je ne vais pas dévoiler ici. Et à l'invité aussi, et bonjour à toutes et à tous. Et
j'espère que vous allez bien.
Togolaisement bien.
Togolaisement bien, ça se comprend. Eric Parkoudjo Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Isidore, bonjour cher professeur, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Je ne sais pas si vous allez aussi togolaisement bien.
Moi je vais bien, et comme je le dis toujours, je vais toujours bien. Et dès que vous me voyez là, c'est que je vais très bien.
Ça veut dire que vous allez bien.
Oui, mais je vais commencer par... dénoncer quelque chose que nous avons l'habitude de dénoncer ici, c'est les enfants de rue qui continuent par harceler les gens. Et ce matin, en y arrivant, voilà un accident, un de ces enfants qui a été renversé pas très loin d'ici par un tricycle. J'avoue que la scène n'est pas bonne à vivre, mais voilà ce qui se passe. Et là, j'interpelle une fois encore le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de la Décentralisation, pour que pour une fois, on trouve quelque part à ces gens-là pour s'occuper d'eux. Parce que véritablement, ça crée un problème de société. Je pense qu'il faut véritablement agir.
D'accord, il faut véritablement agir. Oui,
Au fait, le problème est né du laxisme des Togolais, de nos autorités, parce que ceux-là ne sont pas des Togolais avant tout. Hein. C'est des gens que le Bénin a renvoyés, a déportés dans leur pays, et qui sont revenus au Togo. Et on s'était là-dessus. Et ils dorment en pleine lune, et partout. Et c'est aussi des poches d'insécurité. C'est des poches d'insécurité. Il faut que nos autorités puissent régler ce problème-là. Ce ne sont pas des Togolais. Après tout, on va nous dire que bon, c'est des réfugiés, mais trouvez-leur une place. Et ils pullulent les rues, et vous agressent même. Moi, je ne dis pas que c'est des mendiants, ce n'est pas les talibés, mais c'est des gens qui vous agressent à longueur de journée.
Je sais que nous avons mené le débat ici en studio, plusieurs fois, bien sûr. Mais je pense que cette interpellation que vous venez de faire, le message est passé, c'est l'essentiel. On reviendra toujours sur le sujet pour en parler.
Malheureusement, Isidore disait que ce sont des étrangers tous. Non, il y a aussi des Togolais qui sont...
Non, c'est rare. Togolais, vous les trouverez au niveau de la BTCI.
Rare, mais ils sont là.
Ils sont là, il y a des Togolais.
Ça veut dire que chez nous-mêmes, il y a un problème.
Il y a un problème, d'accord.
Qu'il faut régler mais en amont.
Regardez, suivez bien mon regard. Vous allez, ils sont dans des, comment appelle-t-on, dans des fauteuils roulants. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour acheter les fauteuils roulants?
Et il y a des fois des associations ou des mécènes également qui...
Des mécènes? Alors là,
ils les prennent en charge. Et dites-vous qu'il y a une organisation qui se permet de livrer de la bouffe à ces gens-là les midis, derrière l'ancienne gendarmerie ici. Vous passez par là.
Mais est-ce que c'est mal en soi?
Non, ça laisse entretenir et ce n'est pas normal.
Mais il faut leur trouver quelque part ou les loger et pouvoir les entretenir.
Je pense que c'est la responsabilité aussi de l'État, et vous avez interpellé des ministères tout de suite, et je pense que le message doit atteindre vraiment ces ministères pour que on prenne des dispositions pour régler ce phénomène. C'est important. Et Claude, bonjour.
Bonjour.
Et j'espère que vous allez bien.
Oui, mais humainement, oui. Oui, mais togolaisement, comme vous l'avez dit, je me réveille toujours avec une fièvre.
Ah bon?
Ah oui.
Mais ça va aller. L'essentiel est que vous soyez présent. Alors Claude, nous allons introduire notre premier axe de la littérature togolaise sur une thématique. C'est bien sûr cette thématique que vous connaissez très bien, la mémoire historique alors du Togo dans la fiction togolaise. Et nous verrons ce que la littérature apporte à l'histoire et vice-versa, les complémentarités, les échanges réciproques, la part de la fiction. Et nous commencerons par une bande dessinée de l'écrivain Kofi Viassen, que vous connaissez très bien, et qui a pour titre « Si le Togo m'était destiné », paru aux éditions Ago. Et nous évoquerons, nous convoquerons, j'allais dire ensuite, d'autres mardis, des mardis à venir, bien sûr, des œuvres historiques, telles que la guerre des Zaputaga, de Pedro Mama, esclave de Daniel M. Et nous évoquerons d'autres œuvres qui, d'une façon ou d'une manière ou d'une autre, nous ont amené à revisiter notre histoire. Alors, première question, Claude, est-ce qu'il y a une particularité à aborder le sujet historique dans une bande dessinée plutôt que dans un texte classique, j'allais dire?
Bon, je veux rectifier quelque chose. C'est une œuvre collective. Si le Togo m'était compté, c'est un privé à ça. Il y a Canade, Anani Yako, Joao Dutévi, Et voilà, il y a tout ça, tout ce monde. C'est une œuvre collective. Hein, des bédéistes togolais.
Si le, le Togo m'était compté.
Non, non, non. Si le Togo m'était dessiné.
Parce que, oui, oui, il y avait un lapsus.
La carte émergente du Togo.
Pas m'était compté.
Pas m'était compté, oui, oui.
Voilà,
c'est avec
le. Ça, c'est Yves Magara.
Yves Magara.
Oui, Magara, oui.
C'est le même.
Donc, c'est ça. Et puis, la question, c'était...
Oui, mais est-ce que...
La bande dessinée,
oui.
Pourquoi? C'est que la bande dessinée a cette spécificité d'être plus vive, plus vivante. Hein? C'est pas seulement des taches noires sur papier blanc. Il y a des images. Des images, et souvent des images en couleur. Et vous connaissez la force des images aujourd'hui. Hein? C'est très captivant pour la jeunesse aujourd'hui, qui a délaissé la lecture. Hein? Et puis ça reconnaît même la littérature. Vous vous souvenez, je vous ai classé la littérature globalement en deux. Il y a ceux qui, les chercheurs par exemple, les professeurs d'université, les journalistes, tout ça, c'est des écrivains guillemets, mais ils ne sont pas écrivains parce qu'ils font de la fiction et ils ne s'occupent pas trop de l'esthétique et de ce qui est important, c'est la clarté, la netteté d'informer, hein. Alors, ceux-là, c'est ce qu'on appelle, ce que je clame dans le devoir d'écrire. Et il y a ceux qui font la fiction, qui se fient à l'attention, qui sont ce qu'on appelle les vrais écrivains. Hein, ils sont eux, ce qui prédomine, c'est la fiction et beauté de la forme. C'est ça. Mais l'abbé arrive à recouvrir les deux. Vous voyez, vous-même vous servez de la bande dessinée pour convoquer des sujets les plus graves. Même la science. Les chercheurs peuvent recouvrir la bande dessinée. Hein, les professeurs d'université, les journalistes, tout ça. Donc, il n'y a aucun sujet qui puisse échapper à la bande dessinée. Et c'est ça qui fait la richesse des bédéistes. Mmh. Voilà.
Alors, Claude, dans quel contexte historique qu'on suivi Assem Situio?
Oui, vu Assem et ses amis. Disons, c'est le premier contact. Et je peux dire, si je veux simplifier, je ne peux pas multiplier, mais je dirais... C'est le premier contact, eux-mêmes, ils écrivent sur leur œuvre, de 1880 à 1900. Le premier contact hein, de l'extérieur quand il s'agit de la colonisation, hein, la pénétration coloniale avec ce qui allait devenir le Togo. Mmh. Le Togo, voilà.
Et ce qui est aujourd'hui le Togo.
Oui, le Togo, oui.
Alors, Claude, quel est le cadre spécial, ou spatial, j'allais dire, les acteurs, la logique chronologique de cette fondation du Togo dans ce scénario de création Togo?
Oui, c'est une histoire qui, comme c'est une œuvre historique, l'écrivain souvent fait un effort pour être fidèle à l'histoire. Et lorsqu'il... Et contrairement à l'historien, là où il manque de documents, il peut avoir recours à l'invention. Hein. Mais l'historien, lui, n'a pas droit à ça. C'est ça qui fait la différence. Alors, donc, mais si je peux vous parler des actes de tout ce qui s'est passé, la chronologie, tout ça, disons que le déclic, même la tombe de cette histoire, certains diront que c'est même une tragicomédie. C'est l'appétit des Anglais qui ont installé à Gold Coast, au Ghana, à Kita, mais qui ont cet appétit d'hégémonie poussé vers l'ouest, qui pousse vers l'ouest. Hein,
vers
l'est. Qui pousse vers l'est. Voilà. Hein, ils ont un accès. Bon, on ne va pas arrêter dans les détails.
Tout à fait.
À cause des questions de contrebande, ils se déplacent vers Denou, ils se déplacent vers Plaou. Et puis, curieusement, ils veulent aller loin. Ils rêvent de Lomé, hein, d'aller à Lomé. Et là où il y a le point de friction, c'est à Anéhor. Ce qui est Anéhor, aujourd'hui, hein, qu'on appelait les Popos.
Petit popo,
et il y a aussi le grand popo. Hein? Alors, c'est là où il y a la friction. Mais à l'époque, il y avait déjà deux camps. Hein? Il y avait déjà. Enfin, on peut dire qu'il n'y avait pas deux camps. On dirait que sur le terrain, il y avait déjà une structure. Hein, il y avait déjà le Cantouban, hein, dans le royaume de Glidi, qui avait pour allié les Adigos, ça veut dire les Minans, hein, ceux qui sont de la lignée de Kwame Dessou, qui étaient chargés de collecter des impôts sur la plage pour le roi de Glidi. Et c'était une harmonie. Les Anglais, par leur appétit, vont briser cette harmonie, vont vouloir briser cette harmonie, en faisant émerger un autre camp, qui est le camp des Akabans. Hein, comment on appelle, les Lesson, précisément. Et ça va causer un grand désordre sur place. Où étaient installés déjà des comptoirs commerciaux.
Ce qui a été fait, même ce désordre en question, ça a été fait sciemment par le colon.
Oui, surtout les Anglais. Mmh. Ben, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Mmh. Il y avait une harmonie entre les Toubans, les Adigos, les Français. Il y avait, mais les Allemands n'étaient pas encore colonisateurs, mais ils étaient déjà actifs par le commerce sur la côte. Mmh. Hein? Et il n'y avait pas de problème. Et c'est cette friction-là, par le camp Akaban, je ne vais pas aller dans les détails. Dans
les détails, ouais.
Il est vrai qu'ils étaient plus anciens que les Minans, hein, que je crois, hein, les Gains.
Les
Adigos. Ils étaient plus anciens que les Adigos.
Non.
Oui,
non.
Ils étaient plus anciens que les Adigos.
Non.
Bon, on va
continue, c'est l'histoire.
Mais c'est pas là l'histoire. Le problème, c'est que l'histoire a fait que ils ont été portés par les Anglais. Et ça leur a donné une certaine aura. Et c'est ça où il y a eu la friction. Et puis, ça va causer même une guerre civile en Europe. Hein. Et il y avait tellement de désordres, je ne veux pas citer le cas de Porto Seguro, tout ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de désordres. Les Français étaient frileux, etc. Mais le problème va se résoudre par les Allemands. Et les ethnies, il n'y avait pas que les Akabans et les Adigos. Et sur toute la côte, il y avait une ethnie qui était déjà là, qui était le poste avancé des Évêques, les Bais. Mais eux vivaient dans la forêt sacrée. Ils avaient un peu le dos tourné à tous ceux des autres là. Les Allemands, malins plus malins, rusés, pragmatiques, vont s'appuyer plutôt sur les baies. C'est les baies pour résoudre ce problème, ce désordre-là, en s'appuyant sur ceux qui, peut-être, ils considéraient comme les autochtones, enfin, les propriétaires des terrains, puisque les autres sont arrivés de quelque part. Alors ils se sont appuyés sur eux. Et d'abord, vous avez la communauté baie, ça va de Lomé jusqu'à Togoville. Et voilà. Et Lomé a renvoyé à Bagida, Togoville était le bercail même des baies. Et c'est ça qui a fait que...
Le sanctuaire
des baies, puisque c'est une théocratie. Et vivait dans la forêt sacrée. Et c'est ça qui a fait que Nightingale, l'Allemand, a signé le protectorat avec ce sanctuaire, avec de Togoville. Est-ce que vous voyez ça? Voilà.
Et là aussi, c'est discutable.
Non, c'est ça. C'est là. C'est ça qui. C'est Togoville.
C'est l'histoire écrite.
C'est Togoville. Il a prouvé que c'est Togoville. Il y a eu d'autres traités, hein, mais qui n'ont pas fait forest, qui n'ont pas prospéré. Il n'y a pas fait prospérer. Mais c'est les Allemands, avec leur pragmatisme, qui ont su faire émerger ce Togo-là.
D'accord.
Qui va prendre naissance à partir de la signature protectorat avec la communauté baie, notamment de Togoville. Voilà.
Ah, d'accord.
Voilà, j'ai schématisé.
Et justement, vous avez schématisé.
Je ne suis pas historien.
Ah oui, ça c'est
clair. Je suis écrivain.
Je sais, il y a Isidore Collor qui sourit.
Oui,
je sais pas, Isidore, vous avez. Oui, bien.
Non, c'est l'histoire écrite par ceux qui ne sont pas natifs même de la région.
Il y avait. Caïbo est natif.
Caïbo, oui. Oui, Caïbo est natif. Ouais. Est natif, mais il ne l'a pas raconté tel que vous le restituez.
Oui, bon, allez-y.
Oui. Parce qu'il y a les Akans.
Oui.
Et les Akangba.
Oui.
Les Akans, c'est eux qui sont venus s'installer à Glidi.
Oui.
Folie Bébé, à Siongbon.
Siongbon, oui, oui. T'as dit oui.
Et il s'est fait que les Akangban, les Lawson,
oui,
sont des neveux.
Oui.
Et ils sont plus privilégiés. Mais avant le retour de l'ailleurs qui a créé le royaume des
Guéni, on ne peut pas dire quel royaume.
Oui, oui, et oui. Et c'est le neveu des Akans qui était allé, puisque à l'époque, les Anglais, quand ils étaient venus sur la côte, ont demandé qu'on envoie quelqu'un à Londres. Et connaissant nos pratiques, ils ont envoyé le neveu au lieu d'envoyer son propre fils. Et c'est comme ça que Lawson était revenu et demandait chez nous, quand vous voyez nos rois, ce qu'ils portaient, c'est les djibas. C'est seul les Lawson, le royaume de qu'on appelle-t-on de Badi,
oui,
qui porte les
djibas.
Non, non, pas les djibas, les trucs ornés par comme des rois,
oui,
européens. Donc il a demandé à son oncle, à sa tante d'abord, qu'il veut s'installer bien après l'arrivée des Adigo. Kwamdessou était arrivé avant que les Akagban de Domat à s'installer.
Et ça, c'est des, je crois que ça, c'est des nuances. Oui,
mais, oui,
des
détails,
mais ce qui m'intéresse ici, c'est la trame et la crise.
Justement,
c'est les conflits,
tout à fait.
C'est les Adigos qui sont des minants,
voilà,
et descendants.
Le minant même n'existe pas.
Non,
c'est les gens. C'est les gens venus.
Voilà,
les Français, paresseux qu'ils sont,
oui,
ont confondu que c'est, bon, c'est les gens qui parlent Mina, alors que Mina n'a jamais existé.
Non,
Mina n'a jamais existé.
C'est
le Gengbe qui a toujours existé.
D'accord, Isidore, merci.
Le Gengbe même, c'est sorti de l'élevé.
C'est une langue créole.
D'accord, c'est...
Oui, mais c'est sorti... La base du Gengbe, c'est le... C'est pas le... C'est pas... C'est l'élevé.
C'est des emprunts.
D'accord, Eric.
Non, c'est l'élevé.
C'est une partie d'élevé.
Eric.
En réalité, les Adigos... Une partie de beaucoup de langues.
La base, c'est la base.
On laisse Eric c'est intervenir.
Les guerres mineures se sont fondues dans les évêques.
Voilà, c'est ça. Alors, Eric, oui, allez-y.
Très simplement, pour comprendre ceci,
oui,
les Adigos sont venus d'Elmina du Ghana.
C'est ça.
Et la langue qu'ils parlaient, c'est le Gan. Oui. Et là, quand ils sont arrivés sur la côte, confondus aux autres communautés qui existaient. Et donc, le Gan et le Gengbe constituent en réalité la base de leur langue. Et vous comprenez que quand vous allez, par exemple, au Ghana, les gens parlent un Gengbe qui est encore plus dur que vous n'arrivez pas à comprendre.
Tout
vous
à
décelez
fait
des mots. Mais quand eux, ils arrivent ici, ils comprennent beaucoup plus le Gengbe que nous parlons. Et Isidore a raison de dire que le Minan, ce n'est pas notre langue d'origine. C'est le Gengbe qui vient du Gan. Et vous savez, par exemple, il y a des linguistes qui ont fait des travaux. Ils sont allés jusqu'en Côte d'Ivoire et ils ont compris que quand, par exemple, on dit Dodagbe. En Côte d'Ivoire, et chez les Akans, ils disent Do. Quand vous arrivez au Ghana, on dit Joda. Et quand vous arrivez chez nous, on dit Dodagbe.
Le jour. Lundi.
Le jour. Et ça, c'est le lundi.
Oui.
Ainsi de suite. Mardi, Bradagbe. Donc, C'est des choses qui se relient.
Bon,
maintenant, ce que nous sommes en train de discuter ici, ce n'est pas forcément l'origine de la langue, mais c'est comment ces peuples-là ont fini par s'entendre ou vivre ensemble.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr,
et pour que le Togo soit né, je pense quand même que c'est ce parcours-là que nous sommes en train de faire.
Le nom Togo.
Justement.
Ça aussi, ça crée problème.
Oui, mais c'est...
Ce n'est pas derrière le fleuve. Ce n'est pas le côté...
Comment on dit, Togodo.
Mais c'est pas ça. Oui, ce qui est sûr, est-ce que
nous n'avons pas sur des créneaux qui posent problème et où chacun peut faire son interprétation. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le substrat, comme il a dit, et qui permet de comprendre quelque chose.
Oui.
Et c'est pourquoi moi j'ai schématisé.
Tout à fait.
Le schéma est simplificateur, mais il a souvent le mérite de dégager l'essentiel. Voilà. Et bon, on ne va pas entrer comme des linguistes, des historiens. Si vous prenez par exemple des grands historiens, il y a tellement de détails qu'on va s'y perdre. Moi, ce que je sais, c'est que les grands ou les trucs là, tout ce que les Akans, tout ça, moi, je ne maîtrise pas. Les Gans, il y en a qui sont venus. Ils sont venus d'Akra. Les Minas sont venus des Minas.
Ça, c'est les Akans.
Les Akans, les Minas, les deux se sont fondus sur la côte et ils se sont fondus dans les Ébés. Et la langue qu'ils ont raffinée et la base, parce que le français a aussi des emprunts, hein, mais la langue qu'ils ont raffinée, qui est la langue de leur hôte, qui leur a cédé le territoire, et ils ont vécu en harmonie jusque-là. C'est ça qui est important. Et c'est l'appétit des Anglais qui voulait pousser. Voilà. Je crois que, bon, c'est ça qui a permis cet appétit-là, quelque chose a permis. C'est le désordre que ça a créé qui a permis au Togo d'émerger. Voilà à peu près le schéma que je veux
dire. Merci beaucoup, Claude. Merci.
Et ça, l'histoire de la bande dessinée y a été fidèle.
Voilà.
Bon.
C'est l'essentiel.
Voilà.
Merci beaucoup, Claude.
Il faut relever
pour cette chronique.
Sam Nakigal n'a jamais signé le traité.
D'accord. On va pas, effectivement.
On va pas revenir sur cette.
Voilà. Ce qui concerne la chronique. Et on reviendra sur les détails.
On peut partir.
Voilà, justement. Merci beaucoup, Claude. On se retrouve le mardi prochain.
Ce que je voudrais dire, très sincèrement, c'est pour donner l'importance de ce festival qui est organisé aujourd'hui à Anéra, le FIHA.
Oui, mais justement, je voudrais qu'on en parle. Et puisque vous avez évoqué le sujet à la une de votre journal ce matin, vous écrivez FIHA 2024, émotion et fraternité, les maîtres mots.
Oui, justement, on a pris cet angle-là pour expliquer comment des gens qui, je prends l'exemple des Guadeloupéens qui sont arrivés à ce festival, qui se sentaient comme chez eux. Et on les a interrogés et ils disaient, mais que on ne dirait pas qu'ils ont quitté des milliers de kilomètres pour se retrouver sur la, eux-mêmes ils disaient, la terre-mère. Et cette émotion-là a fait que ils ont voulu. Mais il y a certains qui ne voulaient plus partir. Ils se sont dit, mais attends, si on se sent bien ici, pourquoi retourner chez nous? Parce que là, c'est cette émotion-là que nous avons voulu faire ressortir dans cet article. Et l'autre, la fraternité. Effectivement, vous prenez la ville invitée, qui est Lokossa. À Lokossa, au Bénin, il y a toute une grande partie qui parle le Guingbé.
C'est le Guing.
Et après, il y a eu d'autres peuples qui sont arrivés et finalement qui parlent Fon. Mais majoritairement, ils parlent le Guingbé. Et le préfet de la ville de Lokossa, qui était à ce festival-là, a eu à relever cela en disant qu'en fait, s'il n'y avait pas eu le colon, est-ce que ce ne serait pas un seul peuple depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria? Parce que vous retrouvez les mêmes peuples là-bas, les gens qui...
avec les mêmes caractéristiques.
Les mêmes caractéristiques.
Batagli, c'est ça. C'est le...
avec les mêmes caractéristiques, allez-y. Oui.
Ceux qui parlent la même langue, qui pratiquement ont les mêmes habitudes. Quand vous prenez même les habitudes culinaires, les gens pratiquement mangent la même chose. Et on était vraiment curieux la dernière fois de redécouvrir des mets de grand-mère à ce festival-là. C'est pour ça que nous avons voulu relever ce côté émotif et fraternel de ce festival.
D'accord.
De l'autre côté, on était en train de parler justement de l'histoire du Togo et cela a été l'occasion de quelques conférences, panels et tout ça. Et ça a permis, Isidore, comme d'habitude, il vient toujours en retard. Il était en retard, il vient poser des questions sur des thématiques qui ont été déjà développées. Déjà, c'est pour rigoler un peu. Mais néanmoins, on nous a fait notre histoire. Il y a des pans de notre histoire que nous ne connaissions pas. C'est très important. La ville d'Atapame, qui était également là, mais quand vous voyez un peu la façon dont les gens de Lokossa dansaient, mais c'est pratiquement les mêmes choses. C'est dire que en réalité, nous formons une communauté, mais à cause des questions de
colonisation
et des guerres, il y a des risques, risques qui justement sont passés et tout ça, on s'est dispersé. Néanmoins, il faudrait quand même qu'on refasse toutes ces histoires-là pour qu'on s'y retrouve.
D'accord. Isidore, finalement, nous sommes des mêmes peuples, tel que Eric l'explique tout de suite. Mais moi, je me demande, est-ce que déjà avec ces disparités, surtout alors de frontières, est-ce qu'on pourrait arriver à s'unir?
Oui, le peuple est toujours un. On a des cousins au Ghana. On s'entend toujours. Nous sommes venus de l'Ouest. Nous sommes un peuple venu de l'Ouest. Et l'histoire du Togo même nous l'a montré. Le Togo est un pays de refuge. Les Éléments venus du Nord, de l'Est, de l'Ouest. C'est comme ça qu'on a construit le Togo. Mais particulièrement sur la côte, c'est les Gains qui, depuis 1600 et quelques, ont immigré d'Accra pour venir sur la côte. Et après, a suivi les Adigo. Et la troisième royauté, c'est les Akagban. Voilà, ça, personne ne peut le nier. Et c'est le Gengbe qui nous lie tous. Et on n'a aucune identité linguistique, puisque ce sont des emprunts des V, de Fond, et de Wati, de même de l'anglais.
Beaucoup, beaucoup.
Oui, Lita. Lita, c'est quoi? C'est le litre. C'est l'unité de mesure.
Shoemaker.
Et Gafo, c'est l'allemand. Donc, c'est une langue créole qui s'est enrichie par des emprunts. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante qui, au jour le jour, prend des éléments de par le monde. Quand vous prenez Odiku, c'est Yoruba. Tu as maigri. mais c'est ça. Donc, c'est ça la langue et la dynamique de Gengbe.
Et c'est aussi une richesse.
C'est une richesse. Donc, personne ne peut se donner la paternité de cette langue. Même nos cousins qui venaient d'Accra et autres, là, ils comprennent ce que nous disons.
Ouais.
Mais quand vous allez chez eux, quand ils parlent, vous ne rien, vous comme vous n'allez rien, vous allez seulement et entendre quelques brides de la langue. Mm. C'est de quoi qu'on parle.
Mm, d'accord. Nous sommes rejoints par notre confrère Jean-Baptiste Attissot. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà, nous sommes en train de parler de cette question, enfin de FIRA. FIRA et avec cette émotion et aussi la fraternité que ce festival a créé. Et au-delà de cela, on voit quand même que nous sommes les mêmes peuples.
Oui, naturellement, nous sommes les mêmes peuples. Et ce sont les Occidentaux qui ont érigé des frontières artificielles pour nous séparer. Et, mais au-delà, les relations sont conservées. Et aujourd'hui, de part et d'autre, quand surtout nous voyons nos voisins de l'Ouest et de l'Est, il y a des flux migratoires. Chaque jour, c'est d'importants flux de d'Ouest vers l'Est à Lomé. Dans la journée, vous allez voir beaucoup de nos compatriotes qui traversent la frontière de l'Ouest pour venir à Lomé faire des affaires. Et en fin de journée, ils repartent. Et figurez-vous bien, il y a des gens qui ont leur maison au Ghana, sont bel et bien des Togolais, qui ont leur maison au Ghana. Et donc, ils ont presque beaucoup de choses au Ghana. Mais quoi qu'ils soient Togolais, ils ont beaucoup d'activités au Ghana et leur domicile aussi au Ghana.
Mm.
Peut-être on nous dira si territorialement, si la personne a son domicile au Ghana, est-ce qu'il est
Togolais.
Togolais. Mais dans leur cœur, ils se disent Togolais.
Mm. Mais ça. Aujourd'hui, quand on parle de l'intégration,
c'est ça. Justement ça. Et du côté du Bénin aussi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont au Bénin et nous partageons les mêmes cultures. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Et même au-delà, jusqu'à aller au Nigeria, c'est toujours les mêmes peuples avec les langues que nous parlons aujourd'hui. Et donc, c'est pour vous dire que au-delà des clivages érigé par la colonisation, aujourd'hui les Africains et surtout de l'Ouest que nous sommes, avec la langue Évré qui est parlée dans presque 5 ou 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, et on se dit plus Ouest africain que Togolais aujourd'hui. Et à propos justement le témoignage vivant, c'est retrouvailles qui se font ça et là à travers nos fêtes traditionnelles, où on voit des gens qui viennent de très loin participer à ces fêtes traditionnelles. Et la dernière activité en date, c'est le FIRA dont vous parlez. Et donc, avoir la participation, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en cela parce que ça réunit. On s'y retrouve, c'est ça. Sinon, imaginez des gens qui viennent du Brésil.
Ça ne m'étonne pas que les Brésiliens,
les
Guadeloupéens se retrouvent. Hein,
dans ce qui se fait à
Non niveau. Seulement ce qui se fait, mais quand ils arrivent, ils savent que bon, c'est de là qu'ils sont
leur origine.
Mais quand ils parlent même d'ailleurs de la TMR,
ça dit tout. Non, au fait, il y a un pan de l'histoire qu'on veut occulter. Toutes les grandes familles d'Anéro sont esclavagistes. La plupart, c'est ça. Mais on ne veut pas
trouver
l'abcès. C'est très important.
Oui.
Et la plupart de ceux, les Guadeloupéens surtout, quand ils arrivent, ils se sentent chez eux. Les Martiniquais se sentent chez eux. Parce que leurs aïeux ont été vendus, soit à Badagli, soit à au Bénin,
Grand Popo,
non pas Grand Popo,
chez
Ouida ou à Oudromé c'est le sanctuaire même de l'esclavage clandestin.
Oudromé à Goudrafort.
À Goudrafort.
Oui.
C'est pourquoi on appelle Porto Seguro. C'est un port sécurisé.
C'est ça.
Par
les colons.
Par qui? Non, pas par les colons. Alors là, c'est par les Angbétons. Quand on voulait faire traverser hein, les esclaves de Togoville, les Angbétons, que moi je qualifie de miliciens, sortent mutamment.
Et montent la garde.
Et montent la garde.
D'accord, on va quitter le sujet, mais on reste toujours dans le domaine de la culture et littérature, mais aussi hein, qui a trait avec l'économie. Je l'évoquais déjà dans mes mots introductifs, il y a professeur Kakoun Boukbo qui est lauréat du prix du livre économique francophone 2024. Eric, vous êtes revenu sur le sujet, bien sûr, et vous écrivez, bien sûr. Professeur Kakoun Boukbo, lauréat du prix du livre économique francophone 2024. Alors, et quand on prend ce prix que notre compatriote professeur Kakoun Boukbo a décroché, ça veut dire que l'économie, ça a encore fait parler de lui.
Oui, mais ce qui est fabuleux dans cette histoire de prix, c'est que officiellement, le livre n'est pas encore sorti. C'est prévu pour sortir le 9 décembre prochain.
Quand? Et un livre qui n'est pas encore sorti, qui reçoit un prix?
Oui, parce que ça a été déjà publié et ça a été mis à disposition de certains groupes de certains forums comme le forum francophone des affaires.
J'ai suivi même d'ailleurs une émission tout récemment où on a reçu le professeur Kakoun Boukbo qui est allé en détail hein, sur tout ce qu'il a dit dans ce livre.
Oui, Kakoun Boukbo, nous le connaissons, un homme politique, un enseignant et quelqu'un qui s'est forgé quand même une certaine liberté d'esprit et d'expression. Vous le suivez, il se prononce sur des sujets parfois qu'on parle de tabou, mais lui quand même il donne ses avis sur ces sujets-là. Et donc ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est l'émergence de l'Afrique. Et il a dit clairement que il n'est pas un idéologiste. Par contre, tout ce qu'il veut, c'est comment faire en sorte que l'Afrique profite de tout ce que la nature lui a donné en termes de richesse minière, en termes de climat, de géographie et autres pour pouvoir donner à manger à tous ses enfants. Alors, Kakoun Boukbo fait une lutte aujourd'hui, nous le savons tous, contre le CFA. Et ça lui porte quand même préjudice parfois par rapport à ses postes de responsabilité qu'il occupe dans des organisations. Il a travaillé à la BCAO, il est parti, à la francophonie, il est parti, et tout récemment, à l'UOMOA, il est encore parti, parce qu'il expose un problème. En parenthèse, vous savez, il est économiste, mais il est quelqu'un qui s'occupe vraiment de ce qu'on appelle le coton. Et donc, pour Kakoun Boukbo, le coton est une richesse incommensurable pour l'Afrique. Et donc, à travers le coton, l'Afrique peut avoir toutes les richesses financières dont elle a besoin pour se développer. Et donc, le franc CFA qui met en avant Kakoun Boukbo dit: s'il n'y avait pas cet arrimage du franc CFA au franc français dans le temps maintenant à l'euro, que l'Afrique pouvait faire beaucoup de choses. Toutefois, il n'oublie pas, quand vous quittez un point A à un point B, peut-être vous allez laisser des plumes, mais après, ça va se stabiliser. Économiquement, il pense que nous pouvons le faire. Et c'est pour ça qu'il a soutenu l'idée de création de l'éco. Et
galvaudé.
Non, mais c'est pas galvaudé. Ça continue toujours, les réflexions sont toujours menées, parce qu'il ne suffit pas de dire nous créons une monnaie. Mais derrière cette monnaie, il y a beaucoup de choses. Et c'est sur ça, justement, que Kako Nubukpo est en train de travailler.
D'accord.
Et donc, tu parlais de son livre « L'Afrique et le reste du monde » qui vient de recevoir ce prix-là. Oui, Kako Nubukpo dit que l'Afrique est restée en deçà du développement mondial. Mais il propose quand même d'autres choses. Il dit, il a fait 3 propositions. Je pense que quand le livre va sortir, on lira et on fera beaucoup plus de commentaires.
D'accord. Alors, Isidore, quand on suit Kako Nubukpo, justement, c'est un esprit libre. Il dit ce qu'il pense. Il exprime bien ce qu'il pense aussi. Et mais au-delà de tout, c'est comme si il est incompris par sa génération.
Est-ce qu'il a incompris? C'est un manque de volonté. C'est la couardise de nos gouvernants. Kako Nubukpo n'est pas un politique.
Si.
Il n'est pas un politique.
Si.
Kako Nubukpo est un intellectuel, un libre penseur, qui dit tout ce que les gens pensent. Bah, s'il est politique, il pouvait s'accommoder. Hein,
non.
Avec certaines incongruités. Kako Nubukpo, depuis que moi je l'ai connu, depuis son enfance, il a toujours été un penseur libre. Il dit tout ce qu'il pense. Si ça peut lui coûter quoi que ce soit, il est prêt à l'assumer. Et il assume.
Puisque ça lui a coûté même des postes.
Bien, peu importe. Les postes, c'est quoi? Les postes existaient avant lui, non? Mais après lui, les postes ont toujours existé.
Naturellement.
C'est ça, la vie. Hein? Il faut se déterminer. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. C'est ça Kako Nubukpo. C'est ça Kako Nubukpo.
D'accord.
Et je le félicite parce qu'il est passé. C'est un produit de la BCAO. Ça, vous ne le savez pas.
Kako Nubukpo. Eric l'a dit tout de suite.
Non, il dit qu'il est passé par là alors que c'est un pur produit de la BCAO. Avec son tuteur, monsieur Blanchard Davo. C'était son tuteur au Sénégal. Donc, il est passé par là. Il a grandi dans les méandres de la BCAO. Et c'est après qu'il est retourné pour prendre des postes. Mais il a continué de ne pas dire, pas critiquer le franc français. Le franc, ouais, le franc CFA plutôt. Le franc CFA. Et il continue toujours pas à le dire. Ça lui a valu des postes. C'est vrai, mais au moins, il a cette intégrité et cette notoriété en la matière. C'est de ces penseurs dont nous avons besoin en Afrique. Chapeau à lui.
D'accord. Merci. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez aussi l'impression que Kako n'est pas compris par, en quelque sorte, les dirigeants?
Bien, je ne dirais pas qu'il n'a pas été compris, ou bien qu'il n'est pas compris.
Mais puisque, ses réflexions, oui, nous applaudissons tous ensemble ses réflexions, mais il est difficile pour ces dirigeants d'implémenter ses réflexions.
Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur pays, tout simplement. Parce que si vous avez réellement une vision pour votre pays, vous allez chercher ce qui va dans l'intérêt de ce pays, ou bien de vos compatriotes. Nous prenons l'espace CDAO, où il y a ce franc CFA et une partie des pays de l'Afrique centrale où M. Kako, le professeur Kako, chaque fois dans ses sorties, essaie de démontrer que le franc CFA n'est pas ne sert pas l'économie.
Ce n'est pas un outil de développement.
C'est ça, ne sert pas l'économie des pays qui ont en partage ce franc-là. Et à tout bout de champ, il ne sait que dénoncer cela.
Il le dit fort.
Très fort. Il revient maintenant aux décideurs politiques de l'écouter et de mettre en œuvre. Parce qu'il a souvent aussi, à travers ses écrits, je crois qu'il doit être à sa troisième ou quatrième, comment l'appelle-t-on ?
Ouvrage.
Troisième ouvrage, je crois bien. Donc, dans ses ouvrages, il a toujours mis en exergue comment l'appelle-t-on ? Les couacs ou bien les obstacles que le franc CFA constitue pour le développement des pays qui ont en partage ce franc. Et il est allé plus loin pour dire que les décideurs politiques, les gouvernants de ces pays qui se maintiennent volontairement sous ce front-là, ne font pas du bien à leur pays. Et il dit clairement que c'est une servitude volontaire, parce que ces dirigeants-là, lui, en tant qu'économiste, il n'est pas le seul. Il y a d'autres économistes de la sous-région aussi qui, quand même, épousent son idée en disant que le franc CFA n'est pas bon pour le développement de ces pays.
Et puis c'est une monnaie de servitude.
C'est ça, une monnaie de servitude. Et donc, ces dirigeants qui se maintiennent, ça veut dire qu'ils ont accepté simplement maintenir leur état dans le sous-développement.
D'accord. Oui, Eric, c'est vrai que quand je vous parlais lors de cette émission que Kako a animée, c'est vrai, il est revenu sur son livre. Et Kako mise beaucoup sur l'agriculture, hein, sur le continent. Et au-delà de l'agriculture, il dit qu'aujourd'hui, il faut plutôt que la jeunesse soit mise en exergue, parce que c'est en quelque sorte un grand atout pour le continent, un continent qui est pratiquement jeune. Alors, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui fait que peut-être les dirigeants n'arrivent pas à implémenter alors toutes ces choses? Ou bien est-ce que peut-être il y a des réalités peut-être du pouvoir des présentateurs peut-être que Kako ignore?
Non, tu veux parler de son interview au journal Le Monde?
Tout à fait.
Ok, où il parle des régimes forts
très bien.
En face de la jeunesse.
Effectivement.
Tout ça. Oui, je pense que Kako a toujours dit une chose, et je crois qu'il est droit dans ses bottes, que la dépendance financière ou monétaire de l'Afrique ne l'arrange pas. Et il pense, je le disais tantôt qu'il est spécialiste du coton, et il pense que par l'agriculture, l'Afrique peut renverser toutes les tendances qui lui créent des problèmes au niveau de son développement. Aujourd'hui, il dit, quand il voit la majorité de ses anciens élèves qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à
s'intégrer
dans la société, alors que lui, il leur a quand même inculqué quelque chose qu'il a mal. Et donc, il pense que les régimes, hein, les gouvernants peuvent faire quelque chose pour aider cette jeunesse-là à avancer. Il demande tout simplement de créer des conditions pour que ces jeunes-là puissent eux aussi faire quelque chose. Et donc, quand vous avez une jeunesse aussi dynamique, quand vous prenez notre démographie, vous comprenez que c'est 65% de jeunes. Et donc, avec cette force-là, on ne peut pas dire qu'en 2024, c'est-à-dire au 21e siècle, l'Afrique n'arrive pas à émerger. C'est tout le problème. C'est là où il mène ses réflexions. Et il pense, hein, il a dit un mot. Moi, quand j'ai eu vent de ce prix, je l'ai appelé, mais on a juste échangé. Quand je lui ai demandé s'il n'est pas surpris par ce prix, il dit non. Il est plutôt ému par ce prix, parce que aujourd'hui les gens sont en train de le comprendre petit à petit. C'est-à-dire que toutes ces forces-là qui le combattaient, quand lui parle du CFA, quand il parle de l'émergence de l'Afrique et tout ça, qu'aujourd'hui les gens sont en train de le comprendre, et selon lui, petit à petit, tout va,
D'accord, nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser à ce sujet évoqué à la une alors du journal Actu Express. Isidore, vous écrivez ce matin au Dabalo à Waté à la barre, le front touche pas à ma constitution, porte plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce qui se passe?
Il nous souvient que en septembre, le front touche pas à ma constitution voulait organiser une journée de prière à Sokodé, et qui a été interdite par le ministre de l'administration territoriale sans motif valable. Et ils ont pris leur courage en deux mains pour tester, hein, les dispositifs Et ils ont fait un recours près de la chambre administrative de la Cour suprême pour dénoncer l'abus de pouvoir de Oda Balo et demander à la Cour de se prononcer sur cette interdiction qui viole fondamentalement le droit de manifestation et de réunion publique des partis politiques. Voilà en substance ce qui se trame aujourd'hui. On attend de voir si la Cour, quelle suite la Cour donnera à ce recours. Et voici, on va autoriser, à principe, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime de déclaration. Aucun parti politique ne doit avoir l'autorisation de faire quelque manifestation, que ce soit juste d'informer l'auteur que nous voulons faire. C'est...
Or, mais il y a eu une réglementation.
Une réglementation. Imaginez que la même journée de prière a été faite à Lomé, sans aucune interdiction, sans aucune entrave, et on voulait faire la même chose à Sokolé et au-delà de cette journée de prière, c'est de distribuer des kits aux enfants des détenus politiques. Et on évoque des raisons de sécurité, patati patata, de quiétude, mais des arguments tirés, comme l'expression, donne-moi l'expression, prêtez-moi le mot, l'expression,
tirés de nulle part.
Non, tirés des cheveux. Et c'est ça, moi j'encourage les Togolais à éprouver les dispositions qui sont mises en place. On attend de voir la suite qui sera donnée à ce recours.
Justement, c'est la suite qui nous intéresse. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura une suite favorable pour cette plainte contre le ministre Oda Balo?
Disons, a priori, on est au Togo et on sait à peu près ce qui se passe. Mais les voies les plus démocratiques qui sont offertes à notre population, il faudrait que ces voies soient exploitées. Alors si vous estimez que une structure étatique vous a offensé, alors par une décision que vous jugez contraire au test, vous avez la liberté de saisir les institutions compétentes. Et c'est ce que le Front citoyen touche pas à ma constitution. Donc on ne peut que le féliciter et maintenant attendre justement pour voir si la chambre administrative de la Cour suprême va s'exécuter, parce que le dernier recours lui revient. Donc on croise les doigts.
Attendre, c'est que vous revenez sur le sujet ce matin dans votre journal Écho du Monde, et par rapport même aux attentes, enfin au retard, j'allais dire, de certaines décisions de la justice. Vous écrivez: que cachent les retards dans la remise alors des décisions judiciaires aux justiciables?
Oui, justement, Pascal, vous savez que aujourd'hui, nombreux sont ces compatriotes qui se plaignent du fait que quand ils ont des problèmes et ils vont à la justice, quand le jugement est rendu, naturellement, les parties doivent avoir copie de la décision qui a été rendue par le juge. Mais force est de constater que selon les informations qui nous sont parvenues, les gens, après délibération, ils attendent des semaines, des mois pour avoir la copie de leur décision, et ils font parfois plusieurs va-et-vient entre le cabinet du juge pour voir si réellement
il peut avoir le greffier
justement, pour voir s'ils peuvent avoir copie de la décision qui a été rendue par le juge. Mais Nenni, c'est des allers-retours infructueux auxquels ils sont confrontés plusieurs fois. Ils vont, mais sans satisfaction. Et souvent, les raisons qui sont évoquées, c'est parce que après jugement, le juge n'a pas encore signé. C'est ce que nous avons eu comme retour. La décision finale n'a pas été, quoique rendue publiquement, ça n'a pas été signé par le juge. Donc, il ne peut pas, le greffier ne peut pas leur donner une copie. Donc, c'est ce à quoi les compatriotes sont confrontés. Et donc, nous avons justement interpellé l'autorité, notamment le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pour qu'il puisse faire diligence et donner des instructions à ses collaborateurs afin qu'ils fassent diligence pour que les compatriotes puissent entrer en possession dans les délais des décisions rendues par les juges, surtout dans les tribunaux.
D'accord. Eric, le fond touche pas à ma constitution qui porte plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que le fond ne va pas attendre un peu?
Non, pourquoi? Il y a la lenteur de l'administration judiciaire que nous connaissons.
Oui.
Néanmoins, c'est une affaire qui est hautement, je peux dire, politique, hein,
oui.
Parce que là, c'est un mouvement qui veut manifester, qui a informé justement le ministère de l'administration territoriale, qui a interdit cette manifestation avec des argumentaires qui n'ont pas convaincu justement le front. Et donc, comme dans un pays, dans un État démocratique, ce qu'il faut, c'est de porter plainte.
Et le
oui, le front a bien fait de porter plainte contre le ministre. Et donc, nous tous, en tant que Togolais, nous attendons de voir la suite que la justice va donner à cette plainte-là et comment la suite. Parce que quand si c'est le fond qui gagne, alors il y aura forcément une décision contre le ministère ou le ministre. Et donc, comment ça va être appliqué? Parce que cela va nous montrer une fois encore la vivacité de notre démocratie et c'est ça qui est important.
D'accord. Et comment je parlais du front qui doit attendre encore, et c'est par rapport à cette question alors de lenteur des décisions de la justice Jean-Baptiste évoquait tout de suite.
Ouais.
Et parfois, cette lenteur est fait sciemment parce qu'il y a, selon nos recoupements, on essaie de repousser au calendrier grec c'est comment l'appelle-t-on, la signature de ce document pour peut-être obliger les citoyens à verser quelque chose avant de rentrer en possession.
Heureusement que tu n'as pas parlé de dilatoire.
Non, pas du tout.
Merci beaucoup, ces confrères.
C'est fait sciemment.
Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et merci beaucoup pour vos différentes réflexions sur les sujets évoqués ici au Club de la Presse de ce mardi. Nous allons maintenant donner aussi la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux et ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de sujets, bien sûr, aujourd'hui. Nous avons évoqué la littérature d'abord avec notre chroniqueur et au-delà de cela nous avons parlé alors de Fiha et Fiha aussi après tout on a évoqué ce sujet surtout de Kakonu Bukpo, oui justement le professeur Kakonu Bukpo, lauréat alors du prix du livre économique et francophone 2024. On a évoqué le sujet, on est revenu sur cette plainte du fonds touche pas à ma constitution contre le ministre de l'administration territoriale et nous avons terminé avec ce sujet du retard dans la remise alors des décisions judiciaires aux justiciables et c'est un sujet évoqué par Écho du Monde dont le directeur est avec nous, Jean-Baptiste Attisseau. Merci chers confrères, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour Pélé.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Ok, bon, je voudrais toucher. Bon, je salue le plateau.
Le plateau,
je voudrais toucher l'interdiction de ne touche pas ma construction par le régime RPT Villiers, qui avait dit en tant qu'il n'y aura plus un 19 août. Donc, à partir de là, il se contrôle. Parce que si cela s'est passé à Socoré, tout le monde sait ce que c'est que Socoré. Mais tout ça là, c'est pourquoi nous demandions, est-ce que c'est ça la démocratie dont le RPT Unir parle? C'est un parti, c'est un grand parti qui est populaire, qui a 108 députés. Pourquoi il ne peut pas laisser les gens évoluer pour tester leur poids et le poids et le vrai poids du peuple togolais affamé? C'est ce que nous demandons. Donc, je voudrais dire à tout le peuple togolais que tout ce que le RPT Unir fait, c'est du mal pour le peuple. Il faudrait qu'on sache que le peuple togolais est un peuple mature, mais discipliné. Et nous devons toujours dire, tous les journalistes, vous devez comprendre qu'on ne parle pas de la démocratie pour les opposants. Parce que des gens pensent que, bon, tous ceux qui, les leaders qui sont, qui cherchent, qu'on parle de la démocratie, c'est pas pour les opposants, c'est pour les peuples togolais affamés. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on dise à nos responsables autorités, pour que n'installe la démocratie dans le pays, comme d'accord, les autres pays. Merci.
D'accord, merci Pelé pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Vous pouvez également réagir sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. C'est là notre numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez aussi réagir. Allô? Allô, bonjour.
Alors.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
Patrick Cézine.
Pardon?
J'ai deux soucis là. J'ai deux points pour intervenir. Le premier point, c'est par rapport au professeur Kakoulouboukou. Bon, je partage son avis. Mais le point que je ne partage pas, en disant que le. J'ai lu sa revue. En disant que le désengagement des pays européens à l'aide pour l'Afrique, moi je dirais que les Européens n'aident pas l'Afrique. Si tu dis que les prêts qu'ils ont, ça, ils font des prêts, ce n'est pas l'aide. Donc ils n'ont qu'à revoir ce point-là. En fait, les Européens ne nous aident pas, mais ils nous font des prêts. Après, ça répercute sur la population, même sur l'économie de nos pays. À chaque fois, il faut apurer, il faut apurer. Et au final, vous voyez que nous sommes toujours endettés. Donc, le point-là, moi, je voulais rectifier pour qu'on dise que ce n'est pas une aide, mais ce sont des prêts qui nous octroient. Le second point, bon, c'est par rapport au communiqué ou bien à l'arrêté de l'auteur par rapport au projet de foncier en disant de régulariser avant le 31 décembre 2024, sinon ils vont passer aux sanctions. Bon, moi je dirais que eux-mêmes ils savent la situation qui prévoit dans notre pays. Donc ils n'ont qu'à revoir cette situation-là. Ça ne va pas au pays. Donc, en disant ça, et eux-mêmes savent que c'est le contribuable qui fait tout pour payer aux salariés de l'administration publique. Or, dans notre pays, les choses ne marchent pas. Ils n'ont qu'à revoir ce point-là, c'est au point du foncier-là. Je peux faire une proposition en disant que nos autorités peuvent aujourd'hui décider, ou bien les pays de la CEDEAO peuvent décider que la faute, les entreprises françaises qui sont installées au Togo, qui ne paient pas leurs impôts, on peut dire qu'à partir de 1960 jusqu'à ce jour, ils n'ont qu'à prévoir tout ce qu'ils n'ont pas payé là, pour régulariser. En ce temps, au Togo, ou bien les pays de la CEDEAO, ou bien de l'UMA, soutient un peu parce que les entreprises françaises ne peuvent pas dans nos pays.
D'accord. C'est Nestor?
Allô?
Allô, c'est Nestor, c'est ça?
Non, c'est lui, Patrick.
Patrick?
Oui.
D'accord, merci Patrick pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, il est bien.
D'accord.
Togolaisement, d'ailleurs.
Allez-y.
Bon, je viens de piger pour le droit de manifestation, monsieur, notre frère Kassoum Boukho, j'ai suivi ça aussi. Bon, pour le droit de manifestation, vous savez que je ne sais pas pourquoi on s'en va porter plainte contre le ministre. Le ministre, il le fait. C'est un ordre il doit exécuter. Vous savez, arriver là-bas, il faut faire du zèle. Pour faire du zèle, vous allez dans notre pays, on va faire JMRD. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, non? JMRD.
Oui, la journée de reconnaissance, la journée nationale de reconnaissance. Vous savez ça? Oui, nous connaissons, Basile. On connaît bien JMRD.
Oui, on fait ça. Il n'y a pas de cellules dormantes de djihadisme, ni tout ça là. Qui vient faire quoi que ce soit.
Vous voulez parler de la journée de la
au niveau des gens d'en face, et on dit que il y a les cellules de demande du terrorisme qui vont venir faire ce que. Quand on arrive là-bas, il faut faire du vol. Il faut être là-bas très longtemps. Voilà. Et puis, dans un pays comme ça, vous savez que le développement est renvoyé au calendrier grec. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, pourquoi est-ce que nous, ce domaine, c'est à nous que c'est arrivé comme ça? Pourquoi c'est à nous que c'est arrivé comme ça? Parce que moi, je me demande tous les jours, pourquoi est-ce que c'est à nous que c'est arrivé comme ça? On s'en fout du pays, et on a même chacun quelque part, il fait ce qu'il veut. Et nous, on est là, la population gémit dans la misère. Et nous sommes là. Ce ne sont pas vos quelques-uns de vos confrères qui vont venir nous marquer en plus. Il n'y a rien d'autre. Bon, je tire mes chapeaux à M. Kassoum Boukho pour qu'il continue de faire ce qu'il peut faire. Merci.
D'accord, merci beaucoup Basile pour votre intervention 90-86-35-35. Allô, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Ah, Papa Sibiti, comment vous allez?
Ça va, bonjour tous les plateaux.
Oui, bonjour.
Tout ce que je voudrais dire, c'est un sage qui parle toujours. Moi, je ne préconise que la paix. Vous savez, moi, on peut porter plainte contre la tête et Russie. Ce que je souhaite, que ne touche pas à ma constitution. Le monde sait ce que cette constitution, les problèmes autour de qu'il y a à ce. Ils nous ont dit que le jour où ils voulaient distribuer les sites, le parti aussi distribue. Maintenant que le parti a fini, il faudrait demander un jour pour aller. Si le ministre ne veut pas accepter, il va accepter. Ça dépend de comment il faut faire pour que le pays soit en paix. Nous avons, le Togo vit trop de problèmes. Cela dit que c'est, ils veulent ceci, l'amélioration, ceci aussi. Faites tout, ils n'ont qu'à se revoir, lui demander pour aller donner quelque chose. Le gouvernement ne va pas réussir, mais se donner des coups de flèche là, ça ne peut pas réussir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. Nous avons encore quelques minutes. On reçoit notre dernier auditeur pour le.
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Monsieur Nyamavo.
Ah, Monsieur Nyamavo.
Excusez-moi, je n'aime pas le retour, mais je vais aller comme ça.
D'accord, allez-y.
Je vous ai écouté. Vous savez que les pays antidémocratiques sont les pays qui utilisent la force publique contre les idées. La démocratie, c'est les idées. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas la force. Donc, quand cela se passe comme ça, ceux qui parlent de la démocratie et ils sortent la force publique, ils sont antidémocratiques. Et ils jouent le cahier des charges de ces colons-là qui ont amené les 3C, hein, colonisés, civilisés, christianisés, qui ont donné comme produit fini les 3D. Démocratiser, diviser, dominer. Donc, c'est l'idée de dominance qui est là. On met les forces publiques, et parfois les jocksouleurs, par-ci, par-là, pour éteindre les idées des gens. Mais c'est les idées. Si un pays n'est pas contre les idées, il ne peut pas évoluer. Ce n'est pas la force. Bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Et vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Isidore Akolo, votre réaction?
Non, juste pour remercier les auditeurs, surtout Papa Sibiti que j'ai pas entendu il y a très longtemps. Mmh. Je voulais même lui envoyer un coucou. Heureusement qu'il a appelé aujourd'hui.
Effectivement, parce que il me fait signe toujours qu'il tente au niveau, surtout alors du téléphone, mais il n'a toujours pas assez.
Parce que c'est notre papa, hein, il est de troisième âge, et que Dieu aussi puisse l'aider à toujours continuer par nous suivre et nous prodiguer des conseils. Et voilà ce que je pourrais dire. Bonne suite.
D'accord, je reste avec toi pour votre note de fin d'émission.
Oh, donnez hein, toujours la mauvaise note. C'est pas si c'est aux dirigeants ou à qui. Deux sur dix. Oui, oui. Pour que, bon, parce que nos feux tricolores ne fonctionnent pas. Hein. Et bientôt, vous allez voir. Et nous sommes en fin d'année, les guirlandes, les trucs là vont être installés hein, sur nos artères.
Vous voulez alors parler que des décorations.
Les décorations, et alors que les feux tricolores qui sont une nécessité ne fonctionnent pas. Vivement qu'on puisse mettre hein, à contribution les moyens pour pouvoir réparer les feux tricolores.
D'accord.
Parce que quand vous visitez, vous parcourez nos grandes artères et 2 sur 10 feux tricolores fonctionnent. Et ce n'est pas normal pour une capitale.
D'accord, ce n'est pas normal pour une capitale. Merci Isidore Akolo. Eric?
Oui, j'ai écouté les auditeurs. Je pense que tout le monde est préoccupé par la situation de notre pays. Et je crois que chacun apporte quand même sa contribution en soulevant des situations irrégulières qu'on peut régler pour que ensemble vivre ensemble que nous souhaitons, qui va permettre le développement puisse jaillir. Je voudrais finir quand même en évoquant un sujet par rapport à une situation qui s'est produite depuis hier, et une petite fille de 5 ans qui a fait un accident, et on a besoin de sang hein, pour la réanimer, mais depuis 5 heures jusqu'à 9 heures, on n'a pas eu
la poche de sang.
Non, c'est-à-dire que ça existait juste pour acheter. Même c'était difficile parce qu'il y a, la personne qui était chargée de sortir la poche de sang n'était pas là. Hein, je crois que de 5 heures à 7 heures, on peut encore comprendre, mais à partir de 7 heures, hein, qui est l'heure d'ouverture de l'administration, quand même, hein, il faut regarder cela. Parce que on n'en trouvait pas, d'accord, on va savoir comment courir et tout ça.
Mais ça se passe où?
C'est au CHU Sylvanus Olympio. Et donc, je pense qu'il faut que les autorités soient quand même regardantes de cette situation qui n'est pas du tout bien.
D'accord.
Et,
la fille est...
Oui, ça va. Parce que finalement, à 9 heures, on a servi... Le sang.
D'accord. Donc, votre note de fin d'émission.
Ma note de fin d'émission, je ne sais pas si c'est une note, mais je voulais parler d'un bilan qui a été fait par l'UMOA, que nous avons publié ce matin, qui parle de fonds Covid encore. Et donc, je ne sais pas.
Non, normalement, il y a un rapport quand même qui.
Oui, parce que c'est très important que les citoyens sachent cela. On découvre dans ce bilan que le Togo avait proposé 400 milliards, oui. Mais on est allé au-delà, on est allé jusqu'à 600 milliards. Et donc, C'est quand même un bilan qu'il faut lire pour comprendre un peu la situation.
On entend toujours quand même le rapport des députés sur la question.
Mais peut-être que ça
partit
avec la 4e République.
Oui, Jean-Baptiste.
Oui, je crois qu'à écouter les auditeurs, on sent réellement qu'il y a un besoin de démocratisation de notre pays. Parce que leur cri de cœur est vraiment palpable et il faut vraiment que le décideur soit à l'écoute, parce qu'on ne peut pas quand même dire que nous sommes dans une démocratie et chaque jour que Dieu fait, on essaie de donner ou bien d'avancer ou bien de prendre des décisions qui sont à l'encontre des pratiques démocratiques. Je crois que ça laisse vraiment à désirer.
D'accord. Votre note de fin d'émission, rapidement.
Je n'ai pas de note.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atissou, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi le site d'information, c'est corpsdiplomatique.com. Vous pouvez nous rappeler cela?
Diplomatique.news.tg.
Voilà, corpsdiplomatique.news.tg. Merci Isidore Color, merci d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Actu Express. Merci Eric Pakoudjo-Johnson d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union pour la Patrie. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Thomas Etek aussi d'ATV a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsi a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.